Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va aller découvrir à travers son histoire, mais aussi à travers sa pratique, tout ce qui est en rapport avec notre héritage transgénérationnel. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Et Aïcha Serifi, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Aïcha?
Ah, ça va super bien, merci beaucoup. J'avais hâte de t'avoir en ligne. Donc oui, merci, je vais bien.
Bah écoute, moi aussi, vraiment, depuis le temps qu'on a envie de faire cette interview, on a enfin trouvé le créneau qui te convient le mieux. Voilà. Alors, Aïcha, avec toi, en fait, on va parler de ce que tu appelles la biologique des émotions. Ce n'est pas la biologie des émotions, mais la logique des émotions et tout ce qui est héritage transgénérationnel. D'abord, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on va essayer de comprendre comment toi, tu en es arrivé à en faire aujourd'hui ton métier, finalement. C'est quoi exactement la biologique des émotions?
Donc, je vais faire simple pour que ça soit facile à comprendre. En fait, c'est une discipline thérapeutique qui permet de comprendre le sens des maladies et des blocages, et aussi le sens du comportement humain aujourd'hui. Donc, d'après, surtout, l'étude de son histoire familiale et son histoire personnelle. Donc, on va s'intéresser au cerveau et à son fonctionnement. C'est lui, en fait, le chef d'orchestre, Yasmine. Donc, c'est le cerveau qui envoie l'ordre à notre corps de faire certaines maladies ou certains blocages qui sont toujours, toujours liés à une histoire familiale.
Toujours.
Oui, toujours.
Donc toi, tu dis, quelle que soit la maladie, en fait, c'est lié à une histoire familiale?
C'est lié à notre histoire familiale. Et si on va regarder dans l'arbre généalogique, c'est pour ça qu'en biologique des émotions, on s'intéresse à l'arbre généalogique. Donc on va regarder un petit peu dans l'arbre généalogique, qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les événements marquants dans cet arbre qui ont fait qu'on développe une émotion qui s'installe chez notre descendant, notre ascendant.
Ouais.
Et quand on va voir un petit peu l'émotion qu'il y a eu dans cet arbre généalogique, qu'est-ce qui a provoqué chez cette personne qu'elle développe, on va dire, une résistance à l'insuline ou bien qui va provoquer certaines émotions qui vont provoquer certaines maladies qui vont s'installer et des fois déjà être programmées dans notre arbre et qui peut-être vont se développer après avec les descendants.
Ok, mais une fois qu'on décrypte tout ça, est-ce que ça veut dire qu'on... par exemple, une personne qui souffre de diabète, ok,
oui.
Donc résistance à l'insuline, et qui vient vous voir, et qui vient te voir, et tu fais le travail avec elle. Est-ce que ça veut dire qu'une fois, dès qu'elle sait pourquoi, la maladie disparaît?
Ah, ça, on ne peut pas garantir. Le truc, c'est que, comme tu as dit, tu as dit un truc super intéressant, c'est aller voir le pourquoi. Parce que quand quelqu'un il vient me voir pour un blocage ou une maladie ou quelque chose qu'il répète dans sa vie inconsciemment ou consciemment, il vient pour savoir souvent le pourquoi est-ce que j'ai ça. C'est ça la question, c'est pourquoi ça m'arrive, pourquoi à moi et pas à quelqu'un d'autre. Et en fait, aller chercher le pourquoi, c'est là qu'on s'intéresse à l'histoire familiale et d'aller voir un petit peu dans son histoire en posant des questions ciblées, avec un questionnaire ciblé, pour aller voir aussi son arbre généalogique, pour voir un petit peu qui porte dans son arbre aussi, qui a aussi cette maladie, qui a ce blocage, et aller voir un petit peu pour voir s'il est en lien déjà avec la personne, donc son ancêtre, qui porte ses émotions précises, ou cette maladie, aller voir déjà la place dans la fratrie, aller avoir la place dans l'arbre généalogique, pour aller un petit peu aller chercher dans son histoire, et voir qu'est-ce qu'elle a hérité, et en fait, le truc de dire... Elle en guérit, ça c'est vraiment le cerveau, c'est lui le thérapeute. En fait, nous, on accompagne, donc les thérapeutes en biologique des émotions, juste accompagnent les personnes à aller voir le pourquoi. Et c'est le cerveau du patient qui décide d'aller ou pas.
Ok, donc en fait, les gens viennent surtout pour comprendre le pourquoi, parce qu'on entend, c'est vrai, quand une personne tombe malade ou a un problème, elle dit « mais pourquoi moi ?» Ce besoin de rationaliser, voilà. En fait, d'avoir une explication rationnelle, à ce qui se passe.
Oui.
Donc, ok.
Oui.
Alors, Aïcha, est-ce que toi, tu as toujours été dans l'accompagnement des autres et dans cette forme d'accompagnement en particulier?
Bah Yasmine, je vais te dire, je pense que depuis petite, je crois que j'étais dans l'accompagnement parce que j'ai une anecdote. Je crois que j'ai 3-4 ans, je suis à l'école maternelle et je pleure. Et la maternelle me dit, mais Aïcha, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Ma maman, elle a besoin de moi. Et en fait, j'ai l'impression, et après je le comprends en travaillant sur mes mémoires familiales, que j'ai toujours ressenti qu'on avait besoin de moi. Et la première personne qui avait besoin de moi, quelque part, c'était ma maman. Mmh. Et donc, du coup, quand on comprend l'histoire familiale et qu'on étudie son histoire familiale, on comprend pourquoi on a ce ressenti. Après, je t'explique, j'ai été faire des études d'assistante sociale au départ, parce que j'avais envie d'aider les autres, vraiment. Et donc, du coup, je suis tombée après dans la thérapie et j'ai l'impression que j'ai toujours été thérapeute. C'est comme si toute ma vie, j'ai aimé conseiller, accompagner mes amis, ma famille, comme si j'avais été missionnée pour ça, Yasmine.
Mmh. Mais d'abord, assistante sociale, en fait, avant d'arriver à la thérapie.
Oui, oui, oui.
Et c'est ça qui va te faire découvrir, en fait, le monde de la thérapie.
Pas du tout, pas du tout. C'est parce qu'à un moment dans ma vie, je sens que j'ai tout, Yasmine, que je suis bien, je suis posée, je suis une maman. Et j'ai été maman très jeune. Et du coup, je fais un travail sur moi parce que j'avais besoin de travailler sur certaines émotions qui stagnaient en moi, d'accord ? Ce qu'on ne nous apprend pas spécialement à l'école, et même quand on fait des études de psycho, en vrai, on ne nous demande pas trop de travailler sur soi. Moi, c'était un truc perso, d'accord ? Et en travaillant sur moi, je découvre certaines émotions, je découvre des choses et ça me parle. Bah, je lis un livre, deux livres, trois livres, je vais à des conférences. Et puis, je me rends compte qu'en fait, et mes amis, elles me disent, elles me disent, mais Aïcha, tu as été toujours coach, thérapeute, en fait. Tout le temps, tu es occupée à nous conseiller. Et je me suis dit, mais en fait, moi, je dois faire ça. C'est mon métier, en fait. Ça m'appelle, en fait. Ouais. Et donc, à travers, on va dire, des livres, à travers des conférences. Et puis après, je me suis lancée dans des formations de coaching. Et puis, j'ai rencontré Christophe Duval, le fondateur de la biologie des émotions. On a fait un live ensemble. Et du coup, je m'inscris à sa formation. J'adore, je m'inscris à sa formation. Et je me rends compte que c'était ce qui me manquait, en fait. C'est ce qui me manquait pour comprendre justement les pourquoi de nos blocages et tout ça.
Alors, on part pas, tu le sais beaucoup mieux que moi, mais on va pas de façon anodine vers certaines spécialités. Toi, c'est tout ce qui est héritage transgénérationnel, constellation. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu as sorti de ton héritage à toi, justement? Qu'est-ce qui a façonné la Aïcha qui ne se connaissait pas encore? Oui, raconte-moi.
Ok, Yasmine. Je t'explique. Un jour, donc en travaillant sur moi, je fais un coaching. Et du coup, le coaching, on me parle de mon enfant intérieur, d'accord? On me parle de mon enfant intérieur. Et là, du coup, on dirait que j'ai eu une illumination. Et j'ai ressenti tellement d'émotions, Yasmine, quand on m'a parlé de cet enfant intérieur. Et je me suis dit, mais oui, c'est moi, la petite Aïcha, c'est elle qui était triste. C'est elle qui avait l'impression qu'elle devait porter des choses qui ne lui appartenaient pas. Et alors, du coup, je commence à lire des livres sur l'héritage transgénérationnel, les mémoires familiales. Je me forme en psychogénéalogie. Et en fait, au plus je me forme, au plus je pose des questions à mes parents. Et ça n'a pas été trop facile. Attention, quand on leur pose des questions sur la famille, le passé, tout ça, on dirait qu'il y a toujours une part de mystère. Okay,
de non-dit.
Les noms dits,
de secrets de famille.
Des secrets de famille, les noms dits. Et je t'assure, hein, Yasmine, qu'aujourd'hui encore, je découvre tous les jours des choses parce que chaque fois que j'ai l'occasion, parce que j'ai encore mes parents, alhamdoulilah, tous les jours quand je me pose avec mes parents, je repose des questions et j'en découvre encore. Je découvre que ma grand-mère maternelle, elle était accoucheuse, mais dans le village, elle n'était pas infirmière, mais elle accouchait. C'était une doula qui accouchait les femmes. Et elle s'occupait des enfants extérieurs, on va dire. Et elle était... tout le monde l'adorait parce qu'elle était super douce et tout ça. Après, je découvre que mon grand-père, maternel toujours, ben lui, il était un genre de thérapeute à l'époque parce que les gens, ils venaient lui raconter des histoires et ils retrouvaient des solutions, ils parlaient avec eux. C'était pas un thérapeute, mais c'était à l'époque un style de thérapeute. Donc, avec cette histoire familiale, déjà, je me dis, mais waouh, mais en fait, je suis attirée, tirée par ça. Et c'est pas un hasard. Autre chose, Yasmine, je porte le nom de ma grand-mère paternelle.
Ok.
Et donc, du coup, ma grand-mère paternelle, elle décède. J'arrive au monde quelques années après. Et mon père dit, elle s'appellera Aïcha. Ma mère, je pense pas qu'elle était super enthousiaste de donner le nom de sa belle-mère. Mais elle a accepté. Et j'avais l'impression, Yasmine, quand j'ai été chercher, parce que dans mes histoires familiales, que j'avais un gros lien avec cette grand-mère Aïcha que je n'ai pas connue. Mon père était lui-même donc orphelin. Mon père était orphelin de son père. Et donc, du coup, je me suis toujours intéressée un petit peu à cet enfant, à l'enfant intérieur, à l'enfant, en fait, qui a été laissé. Et en fait, d'après toutes ces recherches que j'ai faites, et j'en trouve encore aujourd'hui tous des non-dits, des choses qui se débloquent, en fait, Yasmine, c'est comme s'il y avait une énergie, et que cette énergie, quand tu commençais à la débloquer, ben les langues, elles se déliaient. Et que j'en sais toujours un peu plus. Et ça me permet aujourd'hui, Yasmine, de me... Comment te dire ? C'est comme si chaque jour, quand tu sais un peu plus sur tes ancêtres, sur ton histoire familiale, tu te comprends un peu plus.
Comment ça te permet d'évoluer aujourd'hui, toi ? Comment ça te permet de te construire différemment ?
Parce qu'on a tendance à, Yasmine, à considérer des choses comme bien ou mal, mauvais, pas bien, péché, halal, haram. Là, c'est, tu comprends d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé plus haut que toi, qui fait qu'aujourd'hui, tu as un mécanisme que tu as mis dès l'enfance et même bien avant, quand on était dans le ventre de notre maman. Et en fait, ça te permet d'avoir plus d'empathie pour toi-même sur certains sujets, sur certaines choses. Et tu peux comprendre d'où tu viens. Et quand tu comprends d'où tu viens, c'est plus facile pour toi d'aller vers ce dont tu veux, en fait.
Alors, par rapport à justement, quand tu échanges avec tes parents aujourd'hui, toi, tu viens d'un autre monde, tu as une autre formation, tu as... et eux, justement, viennent de cette génération où il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets de famille, il faut taire les choses, il ne faut pas les raconter. Comment tu arrives à faire croiser ces deux mondes, ces deux générations, ces deux états d'esprit ?
Ça a été tout un travail, Yasmine, hein parce qu'au départ, c'était très fermé. Au départ, c'était pourquoi tu poses ces questions-là, ce qui est passé, c'est fini. C'était fermé, je t'avoue. Mais au fur et à mesure, je suis très, on va dire, perspicace. au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'ils acceptent un peu plus ce que je fais comme boulot. Ils voient un petit peu ce que ça donne sur moi, ce que ça donne sur mes enfants, ce que ça donne sur les gens autour de moi, ce que ça donne sur mes frères et sœurs, d'en savoir plus. Et je n'y vais jamais, Yasmine, dans un but... en fait, j'y vais pas comme si... je posais des questions parce qu'ils ont toujours l'impression, Yasmine, en fait, qu'on les attaque quand on leur pose des questions sur le passé, tu vois. C'est comme s'il y avait des choses qu'il fallait pas dire, qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Et moi, j'y vais d'une autre manière. Moi, ma technique, on va dire, c'est je m'intéresse à votre histoire parce que votre histoire, c'est la mienne. J'ai le droit de connaître grand-mère, grand-père. J'ai le droit parce que j'ai pas eu, je les ai pas tous connus. Donc, j'y vais vraiment par intérêt à leur histoire. Et du coup, ça change tout. Je trouve que ça change tout. C'est parce qu'en fait, je m'intéresse à eux et leur histoire.
Alors, justement, toi, tu vis en Belgique, c'est bien ça ?
Oui.
Est-ce que tu racontes, est-ce que c'est le propre de nos communautés maghrébines africaines ? Ou bien, même par exemple, les Européens ont cette approche-là, cette attitude-là vis-à-vis des anciennes générations ? C'est comme si, ces personnes... par exemple, que tu n'as pas rencontré, mais dont tu descends, en fait, appartiennent à une époque, et c'est bon, ces personnes ne sont plus là, tu n'as pas à poser de questions. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas rencontrés, vous ne vous êtes pas connus, et même ceux qu'on connaît. On n'a pas à poser de questions, en fait.
Oui, c'est exactement ça, mais ce n'est pas que typique à notre culture. C'est un peu tout le monde. Moi, je suis née en Belgique, je suis grandie en Belgique. Mes frères aussi, mes parents, ils sont arrivés, ils étaient très jeunes. Ma mère, 16 ans, mon père, 18 ans. Et je pense que j'ai grandi, je me sens belge aussi, et j'ai grandi avec beaucoup de Belges. Et c'est la même chose, en fait. C'est exactement la même chose. On dirait que les personnes qui ne sont plus là, ou ce qui s'est passé avant, on l'enterre avec la personne. C'est comme s'il y avait des tabous, des non-dits qu'on ne pouvait pas dire. Tu vois, Yasmine, tout ce qui est hôpital psychiatrique, prison, inceste, tout ce qui est d'ordre maladie mentale, tout ça, c'est des choses que les gens ne veulent plus. C'est comme si, quand on enterre la personne, on enterre la chose avec. Et en fait, c'est ça qui fait les fantômes. Ça s'appelle des fantômes en psychogénéalogie. C'est ces choses-là, en fait, dont on ne parle pas, mais qui sont présentes dans la conscience des personnes et qui sont présentes chez les enfants. Ouais. Parce que tu vois, Yasmine, un enfant, quand on ne lui raconte pas l'histoire, il y a quelque chose qui manque chez lui. Mais quand l'histoire lui est dite, lui est racontée, c'est comme s'il y avait un puzzle qui se mettait en place et ça lui permettait de mieux se comprendre.
Ouais.
Mais sinon, l'intuition, elle est toujours là. On a toujours cette intuition qu'il s'est passé quelque chose.
Ouais. Cette intuition, alors tu parles d'enfance, cette intuition, je vais y arriver, finit par disparaître avec l'âge. Les enfants sont plus intuitifs
non,
que les adultes.
Ah, tu veux dire que si les enfants sont plus intuitifs, ou en fait, les enfants, on a une intuition développée.
Par rapport aux histoires de famille, par rapport au point d'interrogation.
Je pense que ça disparaît jamais. Je pense que c'est la société qui nous fait oublier ce côté intuitif. Parce qu'en vrai, quand on est enfant, tu vois, un enfant, il peut s'émerveiller devant tout le monde. Il s'émerveille. Il peut jouer avec un bout de carton. En fait, il est fort dans le ressenti. En fait, l'enfant, il ressent à 100% les choses. Mmh. Après, quand on grandit, on nous dit d'arrêter de ressentir ou on se moque quand on ressent. On se moque de nous si on ressent quelque chose. Ou on nous interdit de trop ressentir aussi. Et donc, du coup, en fait, ça se perd. Mais en vrai, s'il y a un truc qui est gros, donc un gros secret de famille ou des non-dits, ça nous poursuit. Hein. Ouais. Ça nous poursuit toute la vie.
Alors, justement, tu as parlé de tout ce qui est maladie mentale, maladie psychiatrique, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, pourtant, on est à l'ère où on parle beaucoup de la santé mentale. On parle beaucoup plus de l'importance de l'accompagnement, l'importance d'aller bien mentalement. Et pourtant, ces pans-là des histoires personnelles et familiales restent en fait fermés.
Mmh. Oui, parce que je pense, et ça concerne que moi, je pense qu'en fait, on est l'ère de la communication. On peut lire des livres, on peut lire des livres. On a la communication, ça veut dire que tout est facilité pour nous. Mais on est quand même les enfants des parents qui n'ont jamais été en thérapie. On est quand même les enfants des parents qui ont plus été, pour ma part, dans la survie,
oui.
qui ont quitté leur pays pour aller construire, travailler, faire des enfants, nous offrir à nous, pour nous offrir nous tout. Et on porte c'est comme si on portait nous tout leur bagage, on a hérité leur bagage et aujourd'hui nous on doit se débrouiller avec ça. Mmh. Donc nous aujourd'hui on a le temps, on a plus le temps on va dire. Donc aujourd'hui nous on doit se débrouiller avec un bagage qui est pas que le nôtre et c'est ça qui est plus compliqué. Et tu sais aussi Yasmine, ce qui se passe c'est que c'est mal vu d'aller travailler sur soi. Encore aujourd'hui c'est encore mal vu dans certaines familles. On va chez le médecin pour un mal de ventre, on va chez le médecin pour je ne sais pas quoi, mais pour des maladies ou alors vraiment juste des blocages, je ne vais même pas m'aventurer dans les maladies mentales, mais aussi juste pour les blocages ou les choses qui nous empêchent d'avancer ou une jeune femme qui cherche l'amour mais qui ne trouve pas l'amour parce qu'en fait elle a trop d'idées à cause de ses mémoires familiales que les femmes de sa lignée les débrouillent toutes seules. Et que les hommes ne servent à rien depuis qu'elle est petite, elle entend que les hommes ne servent à rien et que sa grand-mère... Et donc, du coup, en fait, il faut pouvoir, en fait, aller. Le premier pas, c'est le plus difficile, c'est de se dire, en fait, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Mmh.
C'est ça. Ouvrir les yeux sur l'importance d'aller faire un travail déjà. Tu as parlé de tes parents très jeunes, justement, 16 et 18 ans. Oui. Et tu as dit tout à l'heure, en début d'entretien, je suis devenue maman très tôt. C'est un peu l'histoire de tes parents que tu as répétée?
Ah non, pas du tout, parce que mes mère, elle a été très très jeune enceinte. Moi, j'ai été mon premier enfant, je l'ai eu à 24 ans. Donc pour moi, ça va, c'est pas si tôt.
Oui,
ça
va.
Mais je pense pas avoir.
Non. Et tu es l'aînée?
Non, non. Non, pas du tout. Pas moi, je suis la septième.
Tabarkallah. Tabarkallah. Parce que tout à l'heure, quand tu disais ma maman a besoin de moi, j'ai eu l'impression que tu avais cette connexion de l'aînée avec ta maman.
Mais je vais te dire quelque chose. La septième, en psychogénéalogie, elle a la même place que la première.
D'accord.
En fait, ça s'appelle le carré magique. Et en fait, il faut que tu visualises 1, 2, 3. En dessous, 4, 5, 6. Et le 7, elle est alignée avec le 1, le 4 et le 7.
Okay.
Et en fait, on porte, les premiers portent un petit peu comme l'histoire familiale de maman et papa. Tu vois ?
Ouais.
Donc oui, c'était cette responsabilité. Mais pour revenir à ça, il y a toujours... Et ça, c'est très important, Yasmine, et ça, j'utilise, c'est un outil thérapeutique en biologie des émotions que j'utilise, c'est le contexte de naissance. Et ça, c'est très important, c'est ça qui détermine presque, tout dans notre vie, les 27 mois autour de ta naissance, Yasmine. Tu vois, 9 mois avant même que tes parents, ils ont décidé de te concevoir, les 9 mois dans le ventre de maman et les 9 mois après. Et ça, c'est vraiment le contexte de naissance qui fait que tu vas ressentir certaines émotions par rapport à ta sœur ou à ton frère qui sont différents, parce que on a tous des contextes de naissance différents.
C'est pour ça qu'on dit on est frères et sœurs, mais on a tous des parents différents.
Ah oui, exactement.
On n'a pas les mêmes parents, en fait.
Ah non. C'est clair, parce que le contexte n'est pas le même.
N'est pas le même, exactement. Et les émotions ne sont pas les mêmes, et absolument.
Ah, bien sûr.
Aïcha...
Yasmine, des ressentis de nos parents,
oui,
au moment de notre conception.
Tout à fait. Aïcha Serifi, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci
pour cette belle discussion.
Merci à toi de m'avoir conviée à cette discussion. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
Plaisir partagé. Merci Aïcha. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.